Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Tout autre chose en parlant de la Chine. Bonjour Pierre Aski, vous
Bonjour.
Êtes chroniqueur à l'Obs, ancien correspondant du journal Libération en Chine, avec une actualité importante au sujet de ce pays et de la région, un regain de tension en Asie. Lundi 6 mars, la Corée du Nord a procédé au tir de 4 missiles balistiques en direction du Japon. Dans la nuit suivante, les États-Unis ont répondu en accélérant le déploiement de leurs boucliers antimissiles en Corée du Sud. La Chine s'est aussitôt inquiétée de voir la région se réarmer et surtout son hégémonie régionale fragilisée par le rival américain, ce qui fait finalement un drôle de jeu à quatre entre la Chine, les États-Unis, la Corée du Nord et la Corée du Sud, un jeu qui mérite quelques explications, avec tout d'abord quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, la stratégie de la Chine vis-à-vis de la Corée du Nord, Pierre Aski.
Oui, alors il faut comprendre d'abord que la Chine a une hantise, c'est d'être encerclé par les États-Unis. Et effectivement, si vous regardez une carte, vous avez une présence américaine quasiment tout autour de la Chine. Et le dernier maillon qui manque, c'est la Corée du Nord. Et la Chine, les dirigeants chinois ne supportent pas les dirigeants nord-coréens. Il y a une antipathie absolument colossale. Ils n'adhèrent pas du tout au genre de stratégie de la tension des dirigeants nord-coréens. En revanche, ils ne veulent pas que ce régime s'écroule. Parce que s'il s'écroulait, vous auriez une réunification coréenne, un petit peu comme ce qui s'était passé avec les deux Allemagnes à la chute du mur de Berlin. Et les troupes américaines qui sont aujourd'hui stationnées dans le sud iraient jusqu'à la frontière terrestre de la Chine. Et ça, c'est un scénario absolument catastrophique pour une Chine qui est en train, depuis quelques années, de déployer son influence sur tous les plans économiques, mais aussi stratégiques, sur l'ensemble de l'Asie. Et que le dernier obstacle qui sur sa voie, c'est la présence américaine. Les États-Unis sont, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la guerre du Pacifique, sont le protecteur, le garant de la sécurité et des équilibres dans cette zone. Et aujourd'hui, la Chine se verrait bien les remplacer.
Qu'est-ce qui dérange les dirigeants chinois dans le pouvoir nord-coréen de Pyongyang ?
Les dirigeants chinois ont depuis 30 ans maintenant, privilégié le développement économique. Sans perdre pour autant le pouvoir politique. Mmh. Donc c'est cet équilibre assez atypique qu'ont développé les Chinois depuis Deng Xiaoping, depuis les années 80, et qui a marché puisque ça leur a permis un essor économique absolument colossal sans lâcher un iota de leur pouvoir politique. Ils voudraient bien que la Corée du Nord suive cette voie. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, ils avaient tenté de séduire, de convaincre le père de l'actuel dirigeant nord-coréen, donc Kim Jong-il. Ils l'avaient invité à faire le tour des zones économiques spéciales chinoises. Il avait même été visiter des start-up à Shanghai. C'était pas tout à fait son genre de beauté. Et c'est pas non plus la stratégie suivie par le fils, même si il y a eu des réformes économiques qui ont donné un petit peu de lâcher un peu du lest par rapport au contrôle étatique absolu qui existe en Corée du Nord.
Mais alors, il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est que la Chine ne réussit pas à faire fléchir le pouvoir nord-coréen.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui agace l'administration américaine. Les Américains disent aux Chinois, vous n'en faites pas assez pour amener Pyongyang à la raison. Et de fait, c'est exact. C'est vrai que la Chine baisse le feu régulièrement. La Chine, c'est le passage obligé. Il suffit d'aller à la frontière. Il y a un endroit très intéressant, c'est la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Il y a un pont qui est le cordon ombilical de la Corée du Nord. Et tous les matins, vous avez des dizaines de camions qui attendent de passer et qui amènent en Corée du Nord tous les biens dont a besoin la Corée du Nord pour survivre, parce qu'elle ne produit quasiment rien. Et les camions reviennent vides, parce que la Corée du Nord exporte peu. Et à côté de ce pont, vous avez un ancien pont détruit, qui a été détruit par les Américains pendant la guerre de Corée. Et voilà, on est au cœur de l'histoire, là, parce que la guerre de Corée, c'est la première guerre de la guerre froide. Et il faut savoir que cette guerre n'est pas terminée. Il y a eu un cessez-le-feu en 1953, mais qui n'a jamais été suivi par un traité de paix. Il n'y a pas de traité de paix qui met fin à cette guerre. Donc on est dans cet état de déséquilibre, de fragilité et de relations très spéciales entre ces quatre pays, vous l'avez dit. Donc vous avez la Chine, les États-Unis et les deux Corées, avec des instabilités internes en ce moment extrêmement importantes.
Passons maintenant à la Corée du Sud, avec là une situation politique qui est extrêmement instable, une affaire gigantesque de corruption qui va donc de la présidente jusqu'à Samsung, un peu comme si Apple était aujourd'hui incriminé dans une affaire de corruption politique. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes en Corée du Sud,
Pierre? Alors, la présidente a cédé la place temporairement à un président par intérim et elle sera fixée demain sur son sort par la justice sud-coréenne. Donc on est dans un moment clé de la vie politique sud-coréenne. Et à ce moment délicat dans lequel à la fois les institutions politiques et le cœur de l'économie, donc vous avez cité Samsung, est touché, vous avez cette crise entre la Corée du Sud et la Chine. Parce que la Chine est folle de rage de voir la Corée du Sud autoriser les Américains à déployer, donc depuis le début de la semaine, c'est effectif, ça commence à être effectif, un système antimissile officiellement tourné uniquement vers la Corée du Nord, mais dont Pékin dit il nous concerne aussi et il modifie les équilibres stratégiques dans la région. Le problème, c'est que la Corée du Sud, qui a une économie qui s'est énormément développée au cours des 20 dernières années, est aujourd'hui très dépendante du marché chinois. Et un certain nombre d'entreprises sud-coréennes subissent aujourd'hui des représailles en Chine. Vous avez un courant nationaliste en Chine qui est prompt à s'enflammer à la première occasion. Le Japon en a été la cible pendant très longtemps en raison des massacres de Nankin et de l'histoire.
Pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est la Corée du Sud qui est dans le collimateur à cause du déploiement de missiles. Et vous avez une chaîne de grands magasins, le Carrefour sud-coréen, qui est très présent en Chine. Il y a eu des manifestations devant les magasins parce que c'est cette chaîne qui a attribué à l'armée américaine les terrains sur lequel est déployé le système antimissile. Et comme par hasard, les autorités chinoises ont fermé la moitié de ces magasins parce qu'ils ne respectaient pas les normes anti-incendie. Donc vous avez des représailles économiques terribles qui font énormément peur à la Corée du Sud, qui s'est rendue de plus en plus dépendante du marché chinois, dans l'espoir aussi que la Chine allait aider à régler le problème avec la Corée du Nord. Et ça ne s'est pas passé. Et aujourd'hui, vous avez cette situation extrêmement alambiquée où la Corée du Sud est entre les mains de la Chine qui ne veut pas faire pression sur la Corée du Nord, la Corée du Nord qui joue la stratégie de la tension et, c'est la grande inconnue, ces États-Unis de Trump qui aujourd'hui n'ont pas encore véritablement défini leur stratégie.
Avec la question de la Corée du Sud, parce qu'aujourd'hui il nous paraît naturel de considérer que ce pays est un pays développé, il nous paraît naturel de considérer que c'est une démocratie, alors qu'en réalité ce pays s'est métamorphosé à une vitesse extrêmement rapide. Ce pays n'a pas toujours été une démocratie et il a eu un essor économique extrêmement impressionnant, mais tout ceci peut aujourd'hui être considéré comme étant un équilibre fragile. L'incertitude politique ne peut pas être en quelque sorte dissipée en tant que risque par la Chine, Pierre Aski.
Oui, la Chine en fait rêve d'une Corée du Sud neutralisée, qui deviendrait une sorte de Suisse de la région dans laquelle les troupes américaines partiraient. Et c'est un espoir qu'ont entretenu à un moment les dirigeants chinois, parce qu'ils ont eu en face d'eux à Séoul des dirigeants qui étaient prêts à faire un grand deal avec la Chine, dans lequel, ça n'a jamais été explicite, ils auraient pu demander le départ des troupes américaines. Aujourd'hui, non seulement il n'en est pas question, mais la Corée du Sud, à la grande déception de Pékin, s'est engagée dans l'autre voie qui est celle, au contraire, d'un renforcement des défenses américaines pour l'aider à faire face à la Corée du Nord. Il faut quand même savoir que Séoul, la capitale sud-coréenne, est à 40 kilomètres seulement de la ligne de démarcation entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, vous avez des millions de personnes qui sont à portée des canons nord-coréens.
Et l'autre facteur d'instabilité, parce qu'on ne peut quand même pas l'écarter, c'est la Chine elle-même, avec ses revendications en mer de Chine méridionale, avec cette question des îlots. Donc ce sont des îlots réduits à leur plus simple expression, qui ont été agrandis, qui ont été poldérisés, qui ont été transformés en pistes d'atterrissage, avec des revendications territoriales de Pékin, qui là aussi ne sont pas claires, parce qu'il n'est pas facile d'entrer dans la logique de Pékin à cet égard. Expliquez-nous, Pierre Aski.
Alors, la Chine est en train de déployer une stratégie qui vise effectivement à lui donner l'affluence majeure en Asie. Ça se fait économiquement parce qu'elle a aujourd'hui ce pouvoir d'attraction absolument colossal qui fait que personne en Asie ne peut l'ignorer, même dans le reste du monde d'ailleurs. Et de l'autre côté, elle a une stratégie militaire classique qui est la présence territoriale. Et là, cette affaire des îlots est extrêmement symbolique parce qu'elle met la Chine en confrontation larvée avec quasiment tous les pays d'Asie. Puisqu'il y a des revendications sur certains îlots avec le Vietnam, avec les Philippines, avec Taïwan, avec le Japon, donc avec quasiment tous les pays qui comptent dans cette zone de la mer de Chine du Sud et de la mer du Japon. Et la Chine a été poursuivie par les Philippines devant les tribunaux internationaux compétents en droit maritime. Elle a perdu et elle a décidé d'ignorer, ce qui est quand même gênant pour un pays membre du Conseil de sécurité, elle a décidé d'ignorer la justice internationale sur ce sujet et elle a, d'une certaine manière, je dirais, acheté le silence des Philippines en lui donnant quelques avantages économiques. Mais cette présence dans ces îlots qui ont été transformés en bases militaires dans la mer de Chine du Sud est aujourd'hui en contradiction totale avec l'administration de Trump. Et l'administration Trump a dit d'entrée de jeu, ça a été dit notamment au cours de l'audition au Congrès du nouveau secrétaire à la Défense, Mattis, a même imaginé empêcher la Chine d'accéder à ces îlots, c'est-à-dire une confrontation militaire inévitable. Là où il y a un contexte particulier, c'est que nous sommes dans une année charnière en Chine. C'est l'année du Congrès du Parti. Et le président Xi Jinping, qui est à la fin de son premier mandat, est en train de manœuvrer dans les coulisses pour prolonger son bail. Les dirigeants chinois depuis Deng Xiaoping ont été limités à 2 mandats de 5 ans. Et le président Xi Jinping est en train d'organiser, en gros, faire sauter ses verrous pour prolonger son mandat et de placer des hommes à lui et renforcer son pouvoir qui est déjà le plus grand depuis Deng Xiaoping. Et donc, dans un tel contexte, le président Xi Jinping ne peut pas apparaître faible face aux Américains. Ce qui est une source de risque d'escalade si les Américains ne s'y prennent pas bien, parce que on a là tous les ingrédients entre l'agressivité nord-coréenne, la fragilité sud-coréenne et le nationalisme chinois doublé de ce calcul politique du président Xi Jinping, de tous les ingrédients d'une escalade qui peut être extrêmement dangereuse. On parle là de 3 puissances nucléaires, puisque la Corée du Nord est de fait une puissance nucléaire, la Chine et les États-Unis sont nucléarisés. Donc on est dans la zone qui a le plus investi dans l'armement au cours de la décennie écoulée. C'est pas le Moyen-Orient qui dépense le plus en argent dans les dépenses militaires, c'est l'Asie. Et avec à la fois des enjeux nationalistes, des enjeux territoriaux et des enjeux d'influence et de pouvoir.
On écoute le porte-parole de l'Assemblée nationale populaire qui souhaite rassurer sur les ambitions et les souhaits de la Chine.
Regardez la dernière décennie. Il y a eu tant de conflits, de guerres dans le monde, ce qui a causé un grand nombre de victimes et de pertes de domicile, tant de réfugiés démunis et sans abri. Quelle a été la responsabilité de la Chine? La Chine n'a jamais fait de mal à aucun pays.
On parle au présent, hein.
Oui, mais alors c'est évidemment un grand argument chinois, et il faut bien dire que c'est pas faux que si on compare le nombre de guerres démarrées par les États-Unis et le nombre de guerres démarrées par la Chine, il n'y a pas photo. Les Américains sont les grands vainqueurs de cette course à l'agressivité militaire.
En revanche, les choses pourraient-elles changer?
Oui, ce qui se passe, c'est que la Chine a cette stratégie rampante d'influence, et donc on est dans un contexte où effectivement la Chine n'envoie pas ses troupes envahir un autre pays, mais elle installe ses pions de telle manière, elle agit à la fois avec sa puissance économique absolument colossale et cette nouvelle stratégie de route de la soie qui est une stratégie d'influence réelle en Asie et dans le reste du monde, elle agit de manière soft, mais elle agit de la même manière pour devenir la puissance hégémonique d'Asie. Là où il y a une ouverture chinoise, en gros, les Chinois, depuis qu'il y a Trump et depuis que le monde entier s'inquiète plus de Trump que de la Chine, il joue assez habilement de cette peur. Et le ministre des Affaires étrangères chinois, il y a deux jours, a fait une offre aux Américains en disant « Retirez votre système antimissile en Corée du Sud ». Et nous pouvons obtenir peut-être que la Corée du Nord gèle son programme nucléaire et de missiles balistiques. Et on sera tous bons amis. Cette offre a déjà été rejetée par les Américains, mais on peut pas exclure que l'administration Trump, qui parle de deal, hein, Trump s'est vanté d'être un deal maker, d'être un faiseur de d'accords comme dans le sens business du terme, puisse à un moment se dire que plutôt que d'aller frapper militairement la Corée du Nord avec des conséquences totalement imprévisibles sur les escalades possibles, il y a peut-être une carte à jouer avec la Chine, ce qui serait pour lui un virage à 180 degrés parce qu'il a commencé de manière très agressive vis-à-vis de Pékin, mais qui serait peut-être la seule porte de sortie pour que cette zone ne connaisse pas les déflagrations qu'on peut imaginer.
Et ce qui signifie aussi que la Chine, en un mot, Pierre Aski, envisage un accord possible avec Donald Trump, parce que...
Oui, parce que la Chine ne veut pas de confrontation militaire. La Chine est dans une stratégie qui est d'abord économique, avant d'être militaire aujourd'hui.
Justement, on va parler d'économie dans une vingtaine de minutes. Vous serez en compagnie de Christophe Destet, qui est directeur adjoint du CEPI, pour évoquer cette fois-ci la période spécifique que traverse la Chine sur le plan économique, avec une des exportations qui sont en baisse et une période d'incertitude.